Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Traité Baba Kama, page 25, Daf Kaf He. Bonne écoute et bon limoud.
Amar lehem, leur a dit sur ce Rabbi Tarfon, Af ani lo adun keren mi keren. D'accord, dans ce cas-là, je change de tactique. Je ne vais pas apprendre la corne de la corne. La corne dans une propriété privée de la corne sur la voie publique. Ani adun keren mi regel. Je vais apprendre la corne du pied. Ou ma ben makom shehekel ala shen va ala regel b'chut arabim. Ichmir b'keren, makom shehichmir ala shen va ala regel b'chut anizak, en odin shenachmir b'keren. Si déjà, à l'endroit où la Torah est moins stricte à propos du dégât de la dent et du pied, et cet endroit est la voie publique, à propos de l'endommagement de la dent ou du pied sur la voie publique, le remboursement n'est pas exigible. Tout de même, la Torah était stricte à propos de ce même endroit si le dégât entre dans la catégorie du keren, de la corne, comme quoi il faudra rembourser la moitié du dégât. Donc, ichmir bekeren, la Torah était plus stricte à propos de la corne. Makom shichmir ala shen va la regel b'shut anizak. À l'endroit où la Torah, oui, était stricte à propos du dégât de la dent ou du pied, quand ce dégât a été fait sur une propriété privée, qu'il faudra le rembourser entièrement, enodin shenachmir bekeren, est-ce qu'il n'est pas logique de dire qu'on va être autant strict à propos du dégât qui rentre dans la catégorie du keren, de la corne? Amroulo, ils lui ont répondu, d'ailleurs le baminadin, liot konidon, la conclusion ne doit pas dépasser la prémisse. En fin de compte, c'est le même Kal Vachomer, simplement il a été inversé, mais il est basé sur les mêmes deux bases. Donc le keren b'shut arabim, le remboursement de l'encornement sur la voie publique, fait partie de la prémisse. Et donc ma b'shut arabim khatinezek, af b'shut anizak khatinezek, de même qu'à propos du remboursement de la corne sur la voie publique, c'est uniquement la moitié du dégât qui est exigible. Pareil à propos du même dégât de la corne qui a été fait sur une propriété privée. Et c'est là que se termine la Mishnah. Et c'est là qu'on termine le cours du Daf Yomi du Daf Chaf Dalad. Maintenant, Bezrat Hashem, par la Gemara, on commence le cours du Daf Yomi du Daf Chaf He. Demande la Gemara vers Rabbi Tarfon, l'etle d'ayo. Comment cela Rabbi Tarfon fait ce Kal Vachomer? En effet, Rachamim ont raison. La conclusion ne doit pas dépasser la prémisse. Est-ce qu'il est possible de dire que Rabbi Tarfon n'accepte pas cette règle? Ve'adayo d'oraitaou. La règle du Dayo a été établie par la Torah. Donc, Rabbi Tarfon ne peut pas la discuter. Dès maintenant, je ne traduis plus le mot Dayo. On va se rappeler que le mot Dayo est un raccourci de la règle qu'on a vue dans la Mishnah, que la conclusion ne doit pas dépasser la prémisse. De Tanya, comme on a vu dans la Braïta, Midin Kal Vachomer Ketzad, où est-ce que la règle du Kal Vachomer a été établie dans la Torah? C'est écrit dans le verset à propos de l'histoire de Myriam, la sœur de Moshe, quand elle a parlé à Aaron, son frère, du mal contre Moshe, elle a été punie par la Tzara'at, par la lèpre. Et Moshe a demandé à Hachem de lui pardonner son péché. Et donc Hachem a répondu à Moshe, Vayomer Hachem el Moshe, Vavia Yarok Yarg Befanea, Alotichalem Shivat Yamim. Si ça avait été son père qui lui avait craché au visage, est-ce qu'elle n'aurait pas été mortifiée et punie au moins 7 jours? Kal Vachomer le Shrina, Arba Asaryom, a fortiori que ce n'est pas son père qui lui a craché, c'est la Shrina, la présence divine. Donc étant donné que cela est plus grave, elle aurait dû rester enfermée le double du temps, 14 jours. Et là, mais tout de même, elle restera malade uniquement 7 jours. D'ailleurs, le Baminadin Yod Konidon, étant donné que la conclusion ne doit pas dépasser la prémisse, c'est quand c'est son père qui lui a craché, comme quoi elle reste mortifiée 7 jours, de même à propos de la Shrina, elle restera enfermée 7 jours et pas plus. Donc si la règle du Dayo est établie par la Torah, comment cela Rabbi Tarfon la discute? Répond la Gemara, qui l'est le Dayo? Echad de Mafrir Kal Vachomer. Echad de Mafrir Kal Vachomer, it le Dayo. Si quand on va employer la règle du Dayo, le Kal Vachomer devient inutile, il n'est plus nécessaire. Dans ce cas-là, on n'emploie pas la règle du Dayo. Mais si, même après avoir employé la règle du Dayo, le Kal Vachomer est toujours utile, il nous apprend quelque chose, c'est dans ce cas-là qu'on emploie la règle du Dayo. La Gemara explique elle-même. Hatam Shiva de Shrina, l'Oktiva. Là-bas, à propos de Myriam, à propos de la punition quand c'est la Shrina, la présence divine, qui lui a craché au visage, il n'y a pas de laps de temps qui a été précisé. Donc sans le Kal Vachomer, on n'a aucun temps. Il est possible de la guérir de suite. Par le Kal Vachomer, si on n'emploie pas la règle du Dayo, on obtient 14 jours. Et si on emploie la règle du Dayo, on obtient uniquement 7 jours. Ata Kal Vachomer a été Arbasar. Par le Kal Vachomer, on est monté de 0 jours à 14 jours. Ata Dayo, Apik Shiva, Ve Okishiva, est venue la règle du Dayo. elle a renvoyé 7 jours et elle a gardé 7 jours. Donc étant donné que dans ce cas-là, le Kal Vachomer est toujours nécessaire pour apprendre 7 jours, on pourra employer la règle du Dayor. Par contre, dans le Kal Vachomer de Rabbi Tarfon, Aval Acha, dans notre cas, Chatzi Nezek Ktiv, soit si l'encornement a été fait sur une voie publique, soit sur une propriété privée, le remboursement de la moitié du dégât a été explicité dans la Torah. Pour cela, le Kal Vachomer n'est pas nécessaire. Ve'ata Kal Vachomer, ve'aiti Chatzi Nezek Achrina. Donc, quand on a employé le Kal Vachomer, c'est uniquement pour inclure le remboursement de la deuxième moitié du dégât. Ve'na'asa Nezek Shalem. Et donc pouvoir exiger l'intégralité du dégât. Idarash Dayo, africh le Kal Vachomer. Si on va employer la règle du Dayo, on aura entièrement brisé le Kal Vachomer. Il n'est plus nécessaire. Dans ce cas-là, on n'emploie pas la règle du Dayo. Ve'Rabbanan. Et d'où est-ce que Rabbanan apprenait que même dans le cas où le Dayo brise le Kal Vachomer, tout de même, on doit employer la règle du Dayo. Shiva de Shrina Ktive, l'attente pour Myriam des 7 jours, a été explicitée dans le verset. C'est écrit Tisager Shiva Tiamim, qu'elle soit donc séquestrée 7 jours. Donc pour 7 jours, le Kal Vachomer n'est pas nécessaire. Ces 7 jours sont explicités par le verset, et le Kal Vachomer vient uniquement pour 7 jours de plus, donc pour 14 jours. Et tout de même, la Torah a employé la règle du Dayo. Donc on voit que même si le Dayo brise le Kal Vachomer, on emploie un. Ve Rabbi Tarfon, et qu'est-ce que Rabbi Tarfon répond à cela? Ha'u tisager de Darshinan Dayohu. Je lis entièrement le verset qui nous concerne. Vayomer Hashem el Moshe va via Yarok Kirak Befanea, alotikalem Shivat Yamim. Tisager Shivat Yamim, Michus la Machane, Vachante Asef. Et Hashem dit à Moshe, si c'est son père qui lui avait craché au visage, n'en serait-elle mortifiée durant 7 jours? Qu'elle soit donc séquestrée 7 jours hors du camp, et ensuite elle y sera admise. Donc c'est après que la Torah a employé le Kal Vachomer, et en effet sans le Kal Vachomer on ne savait rien du tout. Maintenant, grâce au Kal Vachomer, on sait qu'elle va devoir attendre 14 jours. Par contre, on ne sait pas si on va employer la règle du Dayo. Pour cela, nous dit le verset, Tisager Shivatemim. Oui, on va employer la règle du Dayo. Donc elle sera enfermée uniquement 7 jours. Rabbanan, et qu'est-ce que Rabbanan répond à cela? Si c'est uniquement pour ça que le verset a écrit la suite, pour nous faire savoir qu'on emploie la règle du Dayo, Ktiv Krachina. Vatisager Myriam, c'est écrit par la suite, Vatisager Myriam Michus la Machane, Shivat Yamim. Et en effet, Myriam fut séquestrée hors du camp pendant 7 jours. Donc de ce verset, on aurait déjà pu savoir qu'on emploie en effet la règle du Dayo. Pourquoi tout d'abord le verset a dit Tisager Shivat Yamim? Pour nous dire qu'à propos des 7 jours, ce n'est pas à partir du Kal Vachomer qu'on les a. Même sans le Kal Vachomer, on a les 7 jours. Le Kal Vachomer vient uniquement pour les 14 jours. Et tout de même, on emploie la règle du Dayo et on brise le Kal Vachomer. Ve Rabbi Tarfon, et Rabbi Tarfon répond à cela, Ha'u de Afilu be'alma darshinan Dayo, ce que la Torah a répété deux fois la même chose, que Myriam sera séquestrée 7 jours, cela n'est pas pour nous dire que même sans le Kal Vachomer, on sait que Myriam devrait être séquestrée au moins 7 jours. Et donc, si on emploie le Dayo, le Kal Vachomer devient inutile. Non, les 7 jours de Myriam sont appris uniquement du Kal Vachomer. Et la raison pour laquelle le verset répétait deux fois que Myriam sera séquestrée 7 jours, c'est pour nous apprendre que dans tous les cas, on va employer la règle du Dayo, à condition que le Kal Vachomer ne devienne pas inutile. Velot omar acha mishum kvodo shel Moshe, aval be almalo kamashmelan. Et ne dis pas qu'en général, ailleurs, on n'emploie pas le Dayo. Et c'est uniquement dans le cas de Myriam, en l'honneur de Moshe, qu'on va employer le Dayo. Et donc, en l'honneur de Moshe, Myriam va attendre 7 jours et non pas 14 jours. C'est pour cela que le verset s'est répété, pour nous faire comprendre que dans tous les cas, on emploie le Dayo. Amarle Rav Papa le Abaye. Rav Papa demandait à Abaye, Vea Aitana de l'Odarish Dayo, Vea Falgav de l'Omifrich Kal Vachomer. Et comment répondre à propos de ce Tana, que lui n'emploie pas la règle du Dayo, même si après le Dayo, le Kal Vachomer n'est pas brisé, il reste nécessaire. Quel est ce Tana de Tania, comme on l'a vu dans la Braïta? Grib Zav Minaïn. On a l'homme impur qui s'appelle Zav, celui qui a eu trois fois un écoulement. Lui-même devient impur, et de même le liquide qui s'est écoulé est aussi impur. Alors la question de la Braïta, d'où est-ce qu'on sait que la pollution nocturne du Zav est aussi impure? Keri Bezav Minaïn. Répond la Braïta, vedinou. Ceci pourrait être appris à partir d'un Kal Vachomer. Ma taor betaor, tamé betamé, tamé betaor, enodin chi est tamé betamé. Si déjà la salive d'une personne qui est pure est elle-même pure, tout de même cette salive est impure. Si elle vient d'une personne impure, alors la pollution nocturne, qui est impure, même si elle sort d'une personne pure, a plus forte raison qu'elle sera impure, si elle sort d'une personne impure. Donc je répète, ma taor betaor, tamé betamé, si la salive de la personne pure reste pure. Tout de même, celle de l'impur est impure. Tamé betaor. La pollution qui est impure, même si elle sort de l'homme pur, et nos dînes qui est tamé betamé, à force théorique qu'elle sera impure, si elle sort d'un homme impur. Maintenant, à savoir pour continuer, qu'il y a deux façons de devenir impur par le contact d'une chose impure. Soit par le toucher, le contact direct avec l'impureté, soit en le portant. Celui qui a porté l'impureté, même sans la toucher, il deviendra impur. Mais cela n'est pas dit dans tous les cas. La salive de l'homme qui est impur, la salive du zav, rend impur soit celui qui la touche, soit celui qui la porte. Par contre, la pollution nocturne qui sort d'un homme pur, elle rendra impur uniquement celui qui la touche, et non pas celui qui la porte. Donc, nous dit la Gemara, « V'kamaitela ben le maga ben le massa » et la Braïta par le Kal Vachomer a appris que la pollution nocturne qui sort de l'homme qui est zav, qui est impur, rendra impur soit en la touchant, soit en la portant. « V'amai » et pourquoi cela ?« Nema ani Kal Vachomer le maga ani dayo la fukemassa » Pourquoi on n'emploie pas la règle du dayo? Étant donné que la prémisse du Kal Vachomer est la pollution nocturne de l'homme pur, et celle-là rend impur uniquement si on la touche, on aurait dû dire dayo et dire la même chose à propos de la pollution nocturne qui sort du zav, qu'elle rend impur uniquement si on la touche. Et cela, en effet, ne brise pas le Kal Vachomer. Il restera nécessaire pour savoir que cette pollution nocturne qui sort de la personne qui est zav rendra impur celui qui la touche. Vechitema le maga lo yisterich Kal Vachomer. Et si tu vas me répondre que dans ce cas aussi, si on emploie le dayo, on brise le Kal Vachomer, étant donné qu'à propos de la souillure par le toucher, comme quoi celui qui touche la pollution nocturne d'un zav, ce n'est pas du Kal Vachomer qu'on apprend qu'il devient impur, de l'ogara migavrataor, étant donné que le zav n'est pas différent, n'est pas mieux que l'homme pur, de même que la Torah dit à propos de l'homme pur qui a eu une pollution nocturne, cette pollution rendra impur celui qui la touche. Pareil, et même sans le Kal Vachomer, à propos de celui qui touche la pollution nocturne du zav, et donc le Kal Vachomer est nécessaire uniquement à propos de celui qui porte cette pollution nocturne. Et donc c'est pour cela qu'on n'emploie pas le dayo, étant donné qu'il rend le Kal Vachomer inutile. Dit la Gemara, c'est pas vrai, it's to rire. Le Kal Vachomer est oui nécessaire pour celui qui touche la pollution nocturne du zav. Pourquoi cela? C'est écrit à propos de l'impureté de la pollution nocturne. Un homme qui devient impur par suite d'un accident nocturne. Donc, de quel cas la Torah a parlé? Du cas de la personne qui devient impur suite à cet accident nocturne. Mais sans cet accident, il était pur. Et donc, est exclu le Zav, qui lui, de toute façon, même sans l'accident nocturne, était déjà impur. Et donc, la pollution du Zav n'a pas été inclue. Et sans le Kal Vachomer, celui qui touche cette pollution restera pur. Kamash Melan, alors tu vas me dire que le Kal Vachomer reste utile même après le dayo, pour nous apprendre que celui qui touche la pollution nocturne du Zav deviendra impur. Réfute la Gemara, midi velo davar acher ktiv. Est-ce que c'est écrit dans le verset, l'homme qui deviendra impur par suite à un accident nocturne, et non pas pour une autre raison? C'est écrit uniquement que le mikre laïla, l'accident nocturne, soit d'un homme pur, soit d'un homme impur, rendra impur celui qui la touche. Donc, en effet, même sans le Kal Vachomer, on sait que celui qui touche la pollution nocturne du Zav deviendra impur, et le Kal Vachomer est nécessaire uniquement pour celui qui la porte. C'est pour cela qu'on n'emploie pas le dayo, étant donné que si on l'emploie, le Kal Vachomer devient inutile. Maintenant, la Gemara va approfondir la baraita qu'on vient de voir. Uman tana de shamatle de amar shichvat zera shel zav metama bemasa, et c'est l'opinion de Keltana qui pense que la pollution nocturne du Zav rendra impur celui qui la porte, même sans la toucher. Le Rabbi Eliezer, velo Rabbi Yoshua, ça ne correspond pas ni à l'opinion de Rabbi Eliezer et ni à celle de Rabbi Yoshua de Tnan, comme on a vu dans la Mishnah, Shichvat Zera Shel Zav Metama Bemaga Ve'en Metama Bemasa, divrei Rabbi Eliezer. Ve Rabbi Yoshua Omer, Af Metama Bemasa, le fiche Iefchar Belo Tzachtuche Ziva. D'après Rabbi Eliezer, la pollution nocturne du Zav rendra impur uniquement celui qui la touche et non pas celui qui la porte. Et d'après Rabbi Yoshua, elle rendra impur même celui qui la porte. Pourquoi cela? Étant donné qu'il n'est pas possible que dans cette pollution, il n'y ait pas quelques gouttes de l'écoulement même du Zav. Et en effet, cet écoulement rend impur celui qui la porte. Donc celui qui a porté la pollution nocturne, en même temps, il a porté cet écoulement. Donc la Gemara déduit de l'opinion de Rabbi Yoshua, « Atkan lokam Rabbi Yoshua tamelashe yefchar belo tartuche ziva » Pourquoi Rabbi Yoshua rend impur celui qui porte cette pollution, étant donné qu'il n'est pas possible qu'elle ne contienne pas des gouttes de l'écoulement? halavachilo, mais sans cela, la pollution nocturne en elle-même ne rend pas impur celui qui la porte. Alors c'est qui le Tana de la première Braïta que lui tenait que la pollution nocturne du Zav rendra impur celui qui la touche ou celui qui la porte? Dit la Gemara, et là, haïtanaou. En effet, cela suit l'opinion de ce Tana. Ce Tana, comme on a vu dans la Mishnah, le Malamehen, c'est plusieurs Mishnayot qui se suivent, où la Mishnah nous montre les degrés d'impureté, du plus faible au plus fort. Alors, en premier, il est question de la vermine. En deuxième, de la pollution nocturne. En troisième, de celui qui a touché un cadavre. Ensuite, nous dit la Mishnah, le Malamehen, au-dessus de cela, on tourne la page, on est chafé.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Ensuite, nous dit la Mishnah, le Malamehen, au-dessus de cela, on tourne la page, on est chafé à Moudbet, Zovo Shelzav, Veroko, Veshikhvat Zaro, ou Memeraglav, Vedamanida, Metamim Ben Maga, Ben de Massa. L'écoulement du Zav, sa salive, sa pollution nocturne, son urine et le sang qui cause à la femme son impureté menstruelle, tout cela rend impur soit ce qui les touche, soit ce qui les porte. Donc on voit que ce Tana est d'avis que la pollution nocturne du Zav rendra impur celui qui la porte. Demande à Gmara, ceci n'est pas convaincant. Vedilma Hanami le fiché Ief Charbelot Tartsoukheziva. Peut-être que ce Tana est d'accord avec Rabbi Yoshua, qu'en effet la pollution nocturne du Zav rend impur celui qui la porte, mais non pas par elle-même, simplement du fait qu'il n'est pas possible qu'elle ne contienne pas des gouttes de son écoulement. Répond la Gemara, Imken litneye, gabezavo. Donc si la pollution nocturne du Zav rend impur celui qui la porte, uniquement pour la raison qu'elle contient des gouttes de cet écoulement, pourquoi elle a été écrite après sa salive? Zavo shazav, rokov shikhvat zaro, son écoulement, sa salive et sa pollution nocturne, maishna doktanila gaberoko, pourquoi cette pollution a été écrite après sa salive? Et la mishum doatim miroko, pour nous apprendre, comme la première Braïta, que cette pollution a été apprise à partir d'un kal vachomer de sa salive. Amarler avachamidifta le rabbiné, a demandé avachamidifte à rabbina, vea aitana lodarish dayo, vea falgav de l'omifrich kal vachomer. Moi je trouve un autre tana que lui n'emploie pas le dayo, même si après le dayo, le kal vachomer reste toujours nécessaire. De tanya, comme on a vu dans la Braïta, ma patz bemet minaïn, d'où est-ce qu'on sait que la natte de jonque deviendra impur par le contact d'un cadavre? Vedinhu, cela pourrait être à prendre à partir d'un kal vachomer. Uma pachin ktanim, cheteorim bezav, metame bemet, pachin ktanim. Ce sont les petits ustensiles en argile. À savoir que les objets en argile diffèrent de tous les objets d'autres matières. Les objets d'autres matières deviendront impurs en entrant en contact avec l'impureté, soit s'ils ont été touchés par l'impureté de leur intérieur ou de leur extérieur. Néanmoins, l'ustensile en argile, lui, deviendra impur uniquement si l'impureté l'a touché dedans, dans son intérieur. Mais si le contact de l'impureté a été de l'extérieur, il ne deviendra pas impur. Donc, les petits ustensiles en argile ne pourront pas devenir impurs par le zav. Quand le zav, qui est l'impureté, va les toucher, ces ustensiles sont trop étroits. Et le zav, avec ses doigts, ne pourra pas le toucher à l'intérieur, uniquement de l'extérieur. Et comme on a dit, de l'extérieur, il ne pourra pas le rendre impur. Mais tout de même, par le contact du cadavre, il deviendra impur. Quand je parle du contact du cadavre, il ne s'agit pas du contact direct. Il s'agit de la toumat ol. Si le cadavre et l'ustensile se trouvaient sous le même toit, l'ustensile deviendra impur. Donc maintenant, on pourra comprendre le kal vachomer. Uma pachin ktanim sheteorim bezav. Si déjà les petits ustensiles en argile, qui resteront purs après le contact du zav, tout de même, metame bemet, par le contact du cadavre, sous le même toit, ils deviendront impurs. Ma patte, chez Metame Bezav, la natte de jonque qui deviendra impure si le Zav la touchait ou bien s'est couché dessus. Et Nodine, chez Metame Bemet, n'est-ce pas a fortiori que cette natte deviendra impure par le contact du cadavre si elle est sous le même toit que le cadavre? Maintenant, avant de continuer, il faudra savoir encore une règle. La chose qui a été souillée et qui est devenue impure par un cadavre, dans la procédure pour redevenir pure, il faudra attendre 7 jours. Tandis que pour purifier toute autre impureté, aucun laps de temps est nécessaire. Donc, la Gemara conclut, « Vekamaitela ben le tumat erev, ben le tumat shiva » et du kal vachomer, on a appris que la natte de jonque deviendra impure par le cadavre, soit pour l'impureté du même jour, soit pour l'impureté de 7 jours. « Vehamai » et pourquoi cela ?« Ema ani kal vachomer le tumat erev, vani dayo la fuke tumat shiva » étant donné qu'une des bases du kal vachomer, c'est cette natte qui a été touchée par un zav, et à propos de celle-là, il n'est pas nécessaire d'attendre 7 jours. Donc la conclusion, qui est la natte qui a été souillée par le cadavre, ne pourra pas dépasser la prémisse. Et cela ne brise pas le Kal Vachomer. Il est toujours nécessaire. Du Kal Vachomer, on va apprendre que la natte deviendra impure par le cadavre jusqu'au soir. Et par le Dayo, on dira qu'il n'est pas nécessaire d'attendre 7 jours. Et si tout de même le Tana n'a pas employé le Dayo, c'est que lui est d'avis que même quand le Dayo ne brise pas le Kal Vachomer, on n'emploie pas le Dayo. Amarle a répondu Ravina Ravacha, Kvaramani ale Rav Nachman bar Sacharia la Abaye. Cette question en effet a déjà été posée par Rav Nachman à Abaye. Zamarle Abaye, et Abaye lui a répondu, Tanami mapats besheretz maitela. Le Kal Vachomer à propos de la natte n'a pas été dit à propos de l'impureté du cadavre. Elle a été dit à propos de l'impureté de la vermine. Zahrik Amar, et voici comment il a été dit. Mapats besheretz minain. La natte de jonc qui rentrera en contact avec de la vermine. D'où est-ce qu'on sait qu'elle deviendra impure? Vedinou, ceci pourra être à prendre à partir d'un Kal Vachomer. Uma pachin ktanim sheteorim bezav tmeim besheretz. Mapat shemetame bezav. Et nos dînes qui est aimé Becheret, si déjà les petits ustensiles en argile, qui eux ne deviendront pas impurs par le contact du Zav, comme on a déjà expliqué auparavant, tout de même ils deviendront impurs par le contact de la vermine. La vermine est assez fine pour rentrer à l'intérieur de l'ustensile. Alors la natte, qui elle deviendra impure par le contact du Zav, n'est-ce pas a fortiori qu'elle deviendra impure par le contact de la vermine? Demande la Gemara, et là ma patte bemet minaïn. Dans ce cas-là, en effet, d'où est-ce qu'on sait que la natte de jonc deviendra impur par le contact du cadavre? Répond la Gemara, ça on l'apprendra à partir d'une analogie, d'une Zera Shava. Neymar beged ve or besheret, ve neymar beged ve or bemet. À propos de l'impureté par la vermine, le verset a employé le terme beged ve or, l'habit ou le cuir. Et à propos de l'impureté par le cadavre, le verset a employé les mêmes termes beged ve or. De là on établit l'analogie. Ma beged ve or ha amour besheret, ma pat tamebo. Af beged ve or ha amour bemet. Ma patte tamebo. De même qu'à propos de l'habit et du cuir, de l'impureté de la vermine, la natte de jonc est inclue, comme on l'a appris à partir du Kal Vachomer. Pareil à propos de l'habit et du cuir, de l'impureté du cadavre, la natte de jonc y est comprise. Avant de continuer, on a encore une notion à apprendre, qui est la notion du moufné, à propos de l'analogie établie par la Xera Shava. On a deux sujets dans la Torah, comme dans notre cas, l'impureté de la vermine et l'impureté du cadavre. Et si dans ces deux textes, on retrouve les mêmes ou le même mot, on pourra établir l'analogie de la Xera Shava. Mais par contre, on va faire la différence suivante. Si cette analogie, cette comparaison est irréfutable, on l'acceptera de toute façon. Par contre, si elle est discutable, si on a un élément logique qui contredit le raisonnement de cette analogie, alors ce n'est pas dans tous les cas qu'on pourra l'établir. Uniquement si les mots avec lesquels on établit la Xera Shava sont en trop. Le verset aurait pu ne pas les écrire. Dans ce cas-là, même que la Xera Shava est discutable, tout de même on l'établit. Mais si les mots ne sont pas en trop et la Xera Shava est discutable, on pourra la réfuter. Donc, nous dit la Gemara, Moufne, il faudra dire que les mots de notre analogie, les mots Beged Veor, sont en trop. De il Moufne, ikan le Mifrar, car s'ils ne sont pas en trop, l'analogie n'est pas valable, étant donné qu'elle est discutable. On pourra la réfuter. Comment cela? On pourra dire que l'impureté du cadavre ne pourra pas être comparée à celle de la vermine, étant donné que dans certaines choses, celle de la vermine est plus forte. Donc demain on pourra dire à propos de la natte que c'est uniquement l'impureté de la vermine qui la rend impure et non pas celle du cadavre. Dans quoi on a vu que l'impureté de la vermine est plus forte? Mal sheret sheken metame bekadasha, toma bemet shen metame bekadasha. Un morceau de vermine de la grosseur d'une lentille est suffisante pour souiller. Celui qui touchera ce morceau deviendra impur. Tandis qu'à propos du cadavre, le morceau de la grosseur d'une lentille n'est pas assez grand. Il ne rend pas impur. Pour rendre impur, il faut qu'il ait la grosseur d'une olive. Donc pour accepter et établir l'analogie de la Xera Shava, il faut dire que les mots Beged Veor sont en trop. Demande la Gemara le Ei Afnoué Moufne. Et en effet, pourquoi sont-ils en trop? Répond la Gemara Michde Sheret Itkash le Shikvadera. On a déjà une analogie entre la vermine et la pollution nocturne. Quelle est cette analogie? Dirtiv o ish asher tetelimino shikvadera, ou bien un homme qui aura laissé échapper une pollution nocturne? Vesamichle o ish asher yiga bechol sheret. Et juste après cet écrit, ou bien celui qui aurait touché à quelques vermines de nature à le souiller. Donc du fait que les deux ont été écrits l'un à côté de l'autre, il y a une comparaison entre les deux. Vektiv bebeshikvadera. Et à propos de la pollution nocturne, c'est écrit Vechol beged vechol or asheria lav shikvadera. Tout habit ou tout cuir où il se trouverait de cette matière. Donc le verset a déjà précisé à propos de l'impureté de la pollution nocturne que cela concerne l'habit et le cuir. Beged ve or de kotav rachmana besheret lamale. Pourquoi le verset la répétait à propos de l'impureté de la vermine? Shmamina la afnouye. Donc en effet, il a été répété pour être entrant, pour pouvoir établir l'analogie de la xerashava et apprendre l'impureté du cadavre de celle de la vermine. Demande la Gemara, ve'akati mufne mitzad echad hu. L'explication n'est pas suffisante. C'est que les mots beged ve'or qui ont été écrits à propos de l'impureté de la vermine qui sont en trop, comme on l'a expliqué. Par contre, ces mots-là qui ont été écrits à propos de l'impureté du cadavre, ceux-là ne sont pas en trop. Donc c'est que d'un côté de la Gzera Shava que ces mots sont en trop. Hanicha le mando amar mufne mitzad echad le medim ve'en meshivin shapir. Et là le mando amar le medin ou meshivin, mai ikel memar. On pourra admettre l'explication d'après l'opinion qui est d'avis que du moment où d'un des deux côtés est en trop, même si l'autre ne l'est pas, on pourra établir l'analogie. Et même si elle est discutable, on ne pourra pas la discuter. Donc on pourra accepter notre analogie, le cadavre de la vermine. Mais d'après l'opinion qui est d'avis que si l'analogie est discutable et qu'il n'y a qu'un des deux côtés qui est en trop, on pourra la discuter. Pour qu'elle soit indéniable, il faut que les deux côtés soient en trop. Donc à propos de notre Gzera Shava, de notre analogie, où on veut apprendre la natte qui a été souillée par le cadavre de celle qui a été souillée par la vermine, et cette analogie, on a pu la réfuter. Et donc s'il n'y a qu'un côté qui est en trop, les mots beged ve'or, ils ont été écrits dans le verset de la vermine, cela n'est pas suffisant, répond la Gemara, de mettre nami afnouye moufne. En effet, les mots beged ve'or, qui ont été écrits à propos du cadavre, sont aussi de trop. Pourquoi cela? Mir de met itkash de shikvat zera. On a une analogie entre le cadavre et la matière séminale. Dirtiv v'anogea bechult menefesh o ish asher tetsimi meno shikvat zera. Comme ils ont été écrits ensemble dans le verset, celui qui touche à une personne souillée par un cadavre, ou celui qui a laissé échapper de la matière séminale, vektiv v'beshikvat zera. C'est écrit à propos de la matière séminale, et tout habit ou tout cuir, où il se trouverait de cette matière. Donc, étant donné qu'il y a une analogie entre le cadavre et la pollution nocturne, et à propos de celle-là, l'habit et le cuir sont déjà mentionnés, donc ce n'est pas la peine de les mentionner à propos du cadavre. Pourquoi la Torah les a répétés à propos du cadavre? En effet, pour qu'ils soient entre eux. Ve'ave mufne mishnes dadin. Et maintenant, c'est les deux côtés qui deviennent en trop, et on pourra établir sans problème l'analogie de la Gzera Shava. Pour continuer la suite, je résume le commentaire qu'on a appris et qui nous intéresse par la suite. D'où est-ce qu'on sait que la natte de jonc deviendra impure 7 jours par le contact du cadavre? Tout d'abord, on apprendra du cas de la Romer que cette natte deviendra impure un jour par le contact de la vermine. Ensuite, on a la Gzera Shava, l'analogie de la vermine au cadavre, de même que le contact de la vermine rendra impure cette natte. Pareil à propos du contact du cadavre. Avant de continuer, on a encore une notion à apprendre, celle qu'on va voir par la suite, qui est Don Mina ou Mina, ou bien Don Mina ou Kebatra, quand il y a deux traités différents, la souillure de la vermine d'une part, et celle du cadavre de l'autre part. Et il y a un din qu'on apprend l'un de l'autre. Est-ce qu'elle ressemble entièrement à celle qu'elle a été apprise? Donc elle garde les mêmes conditions de la loi prémisse. Ça c'est la notion de Don Mina ou Mina, étant donné qu'à propos de la natte, tu as appris l'impureté du cadavre, de l'impureté de la vermine, elle garde les mêmes conditions comme si elle a été souillée par une vermine, ou bien du moment où elle a été apprise, elle reçoit les conditions du traité où elle se trouve. Donc, d'un mina, tu la prends de l'autre, ve'uke ba'atra, mais elle prend les conditions de son endroit, de son traité. Et donc, la natte qui a été souillée par le cadavre ne gardera pas les conditions de la souillure de la vermine, elle prendra les conditions de la souillure du cadavre. Alors, demande la Gemara. En fin de compte, d'où est-ce qu'on sait que cette natte souillée par le cadavre deviendra impure 7 jours? On pourra le comprendre d'après l'opinion qui nous dit qu'après que cela a été appris dans notre endroit, tout de même on garde les conditions de la définition dont il fait partie. Donc même que la natte souillée par le cadavre a été appris par la souillure de la vermine, et la vermine elle rendra impure qu'un jour, la natte souillée par le cadavre prendra la condition du cadavre, et on comprend pourquoi elle devient impure 7 jours. Et là, le mando amar dun mina ou mina maïka le memar. Par contre, d'après l'opinion qui nous dit, ce qui a été appris d'ailleurs gardera les conditions initiales d'où il a été appris. Donc la natte souillée par le cadavre, qui a été appris de celle souillée par la vermine, d'où est-ce qu'on sait qu'elle restera impure 7 jours? À propos de la vermine, elle est souillée qu'un jour. Et c'est là, répond la Gemara, amarava anodirava, amarkra, vechibastem bigdechem bayom ashvi'i. À propos de l'impureté du cadavre, et vous laverez vos vêtements le 7e jour. Toute souillure causée par le cadavre ne seront pas moins de 7 jours. Il n'est pas possible qu'il y ait une souillure par le cadavre qui dure moins de 7 jours. Et c'est là qu'on termine le cours du Daf Yomi du Daf Rafhe. Maintenant, on retourne au sujet initial. Et donc c'est là qu'on commence le cours du Daf Yomi du Daf Kasvav. Demande la Gemara où Tereshen Veregel Chayav Beshutarabi Mikal Vachomer. Et pourquoi ne pas employer le Kal Vachomer duquel on pourra apprendre que le dégât de la catégorie de la dent ou du pied, même s'il a été commis sur une voie publique, son remboursement sera exigible. Quel est ce Kal Vachomer? Uma Keren Shebershut Anizak Enno Meshalem Ela Chatinezek Birshutarabim Chayevet. Si déjà à propos du remboursement de la catégorie du keren, de la corne, où la Torah est moins stricte, elle a dit qu'il suffit de rembourser la moitié du dégât, tout de même, le remboursement est exigible, même si le dégât a été commis sur une voie publique. Shen Baragel, Shibirshut Anizak, Meshalem, Nezek Shalem, Enodin, Shibirshut Arabim Chayav. À propos du dégât de la catégorie de la dent du pied, comme quoi la Torah est plus stricte pour le remboursement, et la Torah nous dit quand ce dégât a été commis dans une propriété privée, il faudra rembourser l'intégralité du dégât, à fortiori que ce dégât, s'il a été causé sur une voie publique, qu'il faudra le rembourser. Répond la Gemara, en effet, le Kal Vachomer est juste, mais le verset l'exclut. À Markra, c'est écrit dans le verset, « Ubi'er bisde acher » et l'animal qui va manger dans la propriété de l'autre. De là, on exclut « Velo b'chut arabim » et non pas sur la voie publique. Ce remboursement n'est pas exigible. Donc ce verset annule le Kal Vachomer. On change de page à Chavar Amoudalef.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud ainsi que le Daf Yomi quotidiennement en vidéo.